Bonsoir cher Antoine.
Bonsoir Arnaud Laporte, bonsoir à toutes et à tous. À quelques mois de l'ouverture de son extension, ce sera en juin, la Tate moderne de Londres vient de se doter d'une nouvelle directrice, nous apprend une brève de la Croix, Frances Morris, 57 ans, entrée comme conservatrice à la Tate moderne en 1987, va succéder à Chris Derkon qui part diriger, on en avait parlé à Berlin, le théâtre de la Volksbühne. Autre nomination cette fois au musée Benaki d'Athènes, riche de 500 000 objets d'art allant de la préhistoire à la peinture du XXe siècle, le poste de directeur vient d'en être confié au français Olivier Descôtes, ancien directeur de l'Institut français d'Athènes. La nomination d'Olivier Descôtes à ses détracteurs, constate la correspondante du Monde à Athènes, Adéa Guillot. Certains regrettent que la Grèce soit allée chercher un étranger pour diriger une institution si symbolique de la culture grecque. La très respectée archéologue Lila Marangou déplore, elle, que le conseil d'administration du Benaki n'ait pas fait le choix d'un vrai profil scientifique, un historien ou un archéologue, fin connaisseur des civilisations, des préventions que Descôtes, diplômé de Sciences Po, de la Sorbonne et de Cambridge, entend désarmer. J'ai effectivement un profil de manager culturel après avoir dirigé l'Institut français d'Athènes et de Milan, mais vous savez, au Louvre, au Grand Palais ou au Centre Pompidou, ce sont aussi d'abord de grands managers. La preuve, Sylvie Hubach, qui va prendre la présidence de la RMN Grand Palais en remplacement de Jean-Paul Cluzel, atteint par la limite d'âge. Énarque, elle fut la directrice du cabinet du président à l'Élysée de 2012 à début 2015. Pour autant, rappelle Jean-Christophe Castelin dans le Journal des Arts, Sylvie Hubach n'est pas totalement étrangère au monde de la culture. Elle a été directrice adjointe du cabinet de Jack Lang, ministre de la Culture de 92 à 93, et directrice de la musique, du théâtre et des spectacles rue de Valois de 2002 à 2004, alors que Jean-Jacques Ayagon, puis Renaud Donnedieu de Vabre, étaient ministre de la Culture. Elle a également été présidente de la commission de classification des œuvres cinématographiques et présidente du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique. La présidence de la RMN Grand Palais est un poste très convoité. Cet établissement public issu de la fusion entre la RMN et le Grand Palais emploie près de 1100 personnes pour un budget d'environ 170 millions d'euros, souvent moqué par ses pairs pour son activité très rémunératrice de location d'espace sous la nef du Grand Palais. L'établissement public doit cependant faire face à des difficultés nouvelles. À la fermeture de la librairie du Louvre s'ajoute un palier dans la fréquentation des visiteurs, entre guillemets, comme le soulignait le projet de loi de finances 2016, un palier qui a même tendance à se transformer en baisse, puisqu'en 2015, les entrées ont diminué de 6%. C'est dans ce contexte que la RMNGP va devoir gérer la fermeture du Grand Palais pendant 2 ans, entre 2019 et 2021, pour d'indispensables travaux. En théorie, et selon les nouvelles règles fixées par Fleur Pellerin, son mandat est de 5 ans, renouvelable 2 fois par période de 3 ans. Claire Baumler dans le Figaro s'est intéressée au communiqué de la ministre de la Culture publié mercredi dernier. Le communiqué, c'était sur proposition de Fleur Pellerin, le président de la République a nommé Sylvie Hubach à la présidence de la RMN Grand Palais. Sur sa proposition, vraiment, s'interroge la journaliste, bien peu aujourd'hui croit à cet élément de langage très diplomatique. La ministre a eu beau insister le 20 janvier lors de ses vœux à la presse sur la nécessité qu'elle avait eue de tenir secrète la candidature de Sylvie Hubach pour des raisons de confidentialité. Il semble que l'histoire se soit jouée ailleurs que rue de Valois. Sylvie Hubach est légitime pour la présidence du Grand Palais, institution phare pour les grandes expositions. Son arrivée toutefois remet à nouveau sur le tapis la délicate question de l'usage du pouvoir de nomination et la quasi-impossibilité de lui appliquer des règles un tant soit peu claires. En décembre, la ministre de la Culture avait reçu dans son bureau les candidats à la présidence du Grand Palais laissés vacantes par le départ en retraite de Jean-Paul Cluzel. Projet de relance pour l'établissement à l'appui, ces derniers avaient passé un entretien, puis subi une sélection en règle. En fin de parcours, la ministre avait suggéré 2 noms au président de la République, celui d'Olivier Poivre d'Arvor, ancien directeur de France Culture, et celui de Valérie Vesque-Jancar, actuelle numéro 2 du Grand Palais. Elle était suivie en ce sens par Matignon, qui avait également fait passer une note à l'Élysée. Samedi 16 janvier, Olivier Poivre d'Arvor tenait largement la corde et devait être reçu rue de Valois, heureux d'avoir enfin trouvé un point de chute. Mais au royaume des nominations publiques, la rationalité n'est presque jamais de mise et la politique rôde, mettant à mal toute forme de discours construit. Mardi 19 janvier au soir, brutalement, tout le monde a compris que ces entretiens n'étaient qu'un jeu de dupes et que le président de la République avait tranché, seul ou presque, dans son bureau. Il va de soi qu'il n'a prévenu Fleur Pellerin qu'une fois sa décision prise. On dit que Jean-Paul Cluzel a été à la manœuvre pour ce retournement de dernière minute, mais qu'importe dans le fond, l'essentiel est ailleurs. En cette année préélectorale et alors que 4 grands postes culturels vont être remis en jeu, les présidences de la BNF, du musée d'Orsay, du théâtre de Chaillot et du domaine de Versailles, le président avance seul et ne s'intéresse s'interdit pas de donner les présidences de musées comme autant de cadeaux à ses proches. Sylvie Hubach est d'ailleurs issue de la promotion Voltaire de l'ENA, celle de François Hollande ou de Jean-Pierre Jouyet, secrétaire général de l'Élysée, comme l'était Frédéric Bredin, nommé au Centre national du cinéma en 2013. On se souvient que le candidat Hollande avait promis de ne pas réitérer les défauts de l'État UMP et avait promis de ne pas placer ses relations au pouvoir. La promesse était sans doute difficile à tenir. Quel président s'entourerait d'ennemis? Mais pourquoi organiser des entretiens et faire travailler des candidats à un projet? Aujourd'hui, ceux dont les noms ont circulé en vain doivent se le demander.